Bonjour à tous, Liliane sur Radio Grand Ciel pour l'émission Figures de l'Histoire. août 1572, Henri de Navarre vient d'épouser Marguerite de Valois, qui est la sœur du roi Charles IX. La reine mère se dit, bon allez, ça y est, j'ai réussi ce que je voulais, maintenant je vais réaliser mon autre objectif, supprimer le mauvais conseiller de mon fils, Coligny. Coligny, c'est un protestant, très intelligent, qui lui conseillait à Charles IX plutôt la modération. Et la reine-mère, elle trouve que ça ne va pas du tout. Alors pour servir son dessein, qu'est-ce qu'elle fait? Oh, elle dit, je vais demander au duc de Guise de m'aider. Et celui-ci est persuadé que l'assassinat de son père était François de Guise, il avait été assassiné par Poltrot de Méret, un protestant. Et lui, il est persuadé, le fils Henri, que cet assassinat a été commandé par Coligny. Donc il est tout prêt à aider la reine-mère pour évidemment éliminer Coligny. Alors que ce dernier rentre chez lui, il habite l'hôtel de Ponthieu, le sbire de Guise, qui s'appelle Mauvevert, il tire sur lui. Mais juste à ce moment-là, Coligny se baisse pour renouer son lacet. Si bien que finalement, il n'est que légèrement blessé. Alors il rentre chez lui, accourt tout de suite Henri de Navarre et Condé, protestant lui aussi, hein, cousin de Navarre, à son chevet. Et arrive Charles IX, accompagné de sa mère, qui fait semblant de se lamenter. Le roi jure à Coligny de rechercher le coupable et les auteurs. Alors l'enquête est confiée au président de Toux. Il reconnaît tout de suite d'où vient le coup. Alors Mauvevert, lui, il s'est enfui. Et pourquoi on sait d'où vient le coup? Parce qu'il s'est enfui sur un cheval des écuries de Guise. Ce dernier alors prend les devants, il se cache. L'opinion parisienne apprend la nouvelle. La ville, on peut dire, c'est une véritable poudrière. Pour les Huguenots qui voient monter la fièvre, le seul remède, c'est évidemment de se sauver. Juste après le mariage, d'ailleurs, certains sont déjà partis. Henri, Condé et La Rochefoucauld viennent demander au roi, eux aussi, l'autorisation de s'en aller. Mais le roi leur dit, mais non, restez donc, vous n'avez rien à craindre tant que vous êtes au Louvre. Pour protéger Coligny qui est resté chez lui, Henri de Navarre, il a même fait venir 5 Suisses de sa garde personnelle. Le samedi 23, Catherine réunit ses conseillers. Ses conseillers pour assassiner Coligny. Et on dresse la liste, non seulement de Coligny, mais tous ceux protestants qui sont là à la cour, et on va les faire périr. Elle craint que le roi ne veuille vraiment poursuivre les coupables de l'attentat manqué. Ben oui, parce qu'on va trouver d'où ça vient. Hein. Elle craint une riposte des Huguenots, pas content qu'on ait essayé d'assassiner Coligny. Alors il s'agit de convaincre le roi qu'il existe un complot protestant, ce qui n'est pas vrai, hein, qui vise à s'emparer donc de la reine-mère et du duc d'Anjou, c'est-à-dire le futur Henri III. Alors elle dit, il faut tuer ces protestants. Si bien que pour arriver à décider le roi, parce que c'est quand même lui qui signe, hein, on envoie au roi quelqu'un qui parle beaucoup et même un peu brutal, c'est Retz. Il parle de façon, je vous ai dit, brutale, au point qu'il en arrive à faire peur à Charles IX, qui est complètement atterré quand on lui dit qu'on veut le tuer et que ce sont des Huguenots. Alors longtemps il résiste aux arguments, et puis finalement il cède aux limites de la crise de nerfs. Vous savez qu'il était à la limite de la folie, ce pauvre Charles IX. Hein. Dans la liste des victimes, on trouve Condé. Ah, tout de même, le roi le fait rayer. Le duc de Nevers et puis Henri de Navarre, ils sont épargnés, ceux-là. Marguerite, la jeune mariée, Allez, on connaît bien l'histoire, on sait bien comment ça s'est passé, parce que la jeune mariée Marguerite, elle a laissé de cette nuit effroyable un récit saisissant que nous possédons aux archives. Les massacres alors commencent au son du clocher de Saint-Germain-l'Auxerrois, qui est la paroisse royale, qui appellera les fidèles à l'office de matines pour la fête de Saint-Barthélemy. Alors je ne vous raconte pas ce qui s'est passé, ça a été une véritable horreur, un massacre non seulement au Louvre, mais un massacre aussi dans tout Paris, et qui plus est après, ça s'est répandu jusque dans la province. C'est resté évidemment sous le nom de massacre de la Saint-Barthélemy. La folie dévastatrice, je l'ai dit, s'est poursuivie jusqu'en province pendant plusieurs mois. Henri et Condé ont été, eux, gardés dans la chambre du roi, qui, dans un accès de furie, leur ordonne d'abjurer leur foi. Condé refuse. Alors, Charles IX, je vous ai dit qu'il était à la limite de la folie, se jette sur lui avec un poignard, si bien que Condé tout de même, qui tient à la vie, il renonce et il abjure. Henri n'abjure pas tout de suite, il abjure le 26 septembre. Alors la reine-mère sourit, elle a triomphé de Jeanne d'Albret, il est redevenu catholique. En fait, Henri est prisonnier à la cour. Catherine l'oblige d'ailleurs à écrire une lettre au pape, une lettre bien sûr qu'elle a dictée. Et rappelons que le pape, c'est Grégoire XIII, et bien c'est quand même un pape curieux parce qu'il s'est publiquement réjoui des massacres et il a même fait faire une messe solennelle. Le 16 octobre, on fait signer à Henri un édit qui rétablit le culte catholique dans le Béarn. À La Rochelle, où c'était un fief protestant, je vous le rappelle, les habitants, eux, refusent d'ouvrir leurs portes aux représentants des massacres, c'est-à-dire un catholique qui s'appelle Biron. Pour la reine-mère, c'est un acte de désobéissance. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle décide de faire envoyer l'armée royale devant La Rochelle. Nous allons faire une première pause musicale. Vous êtes toujours sur Radio Grand Ciel et je vous parle du roi Henri IV. Enfin, il n'est pas encore roi quand je vous en parle. Donc, Charles IX, le roi, envoie à La Rochelle un représentant huguenot qui s'appelle François Delannoy pour essayer de calmer les Rochelais. Alors, on le laisse pénétrer en lui donnant le choix de prendre le commandement des troupes huguenotes, puisque lui, il est même huguenot, ou alors de s'embarquer pour l'Angleterre. Eh bien, Delannoy, qui, bien qu'envoyé par Charles IX, décide finalement de soutenir les Huguenots. Alors l'armée royale qui va arriver là est sous le commandement du duc d'Anjou, le futur Henri III. Pour Delannoy, la situation est intenable. Il a même été boxé un jour par un pasteur qui est absolument furieux. Alors finalement, quand Retz fait sommation, n'est-ce pas, le Retz qui représente le roi, catholique lui, hein, fait une sommation au Rochelais de se rendre, eh bien, finalement, Delannoy sort de La Rochelle. Oui, mais le siège dure. Et voilà, on apprend que les Polonais ont élu roi de Pologne le duc d'Anjou. Dans ces conditions, alors, on lève le siège et on bâcle un traité. L'élection du duc d'Anjou, ça a pour effet de pousser au premier rang celui qui reste des frères, c'est-à-dire le duc d'Alençon, François, le dernier donc des Valois. Alors François, on va dire, c'est pas une flèche, c'est un instable, profond, très orgueilleux, très prétentieux, très violent, pas intelligent du tout. Alors, le duc d'Anjou se prépare à être roi de Pologne. Les dignitaires polonais viennent porter leurs hommages à Charles IX, à la reine mère, au futur roi, et pendant qu'ils y sont, à Henri de Navarre, qui le reçoit au Louvre le 23 septembre 1573. Et il est très fier de sa femme. Ça ne sera pas souvent. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est l'évêque de Posen, polonais, qui est venu et qui fait un grand discours en latin. Elle a été la seule à comprendre et elle a répondu en latin. La reine mère, elle, elle est triste parce que son fils qui s'en va là, eh bien, c'est son préféré. C'est vrai que de tous les frères, c'est le plus beau et le plus intelligent. Et j'ajouterais celui qui se porte le mieux. La cour accompagne donc le duc d'Anjou et le roi Charles IX tombe malade de la petite vérole. Lui, il abandonne donc le cortège. Henri reste à son chevet. Quand je dis Henri, c'est Henri de Navarre. Il reste à son chevet. Il va rejoindre la cour, mais uniquement à son retour. Monsieur, c'est-à-dire le dernier, il ne cesse de comploter. Il veut absolument le pouvoir. Et il entraîne dans ses complots Henri. Si bien que la reine mère en avant, alors elle exige de son gendre qu'il fasse une déclaration publique disant qu'il jure de mettre sa vie au service du roi, à la conservation et au maintien de la couronne et de l'État. Les troubles recommencent. Quand je vous parle des troubles, ce sont toujours les troubles entre catholiques et protestants. Et la reine mère les mate. À Vincennes, Charles IX se meurt. La tuberculose a empiré. Catherine ne perd pas la tête alors, elle fait signer au roi une déclaration dans laquelle il lui confie à elle la régence et qu'il reconnaît pour son héritier son frère le plus proche, c'est-à-dire celui qu'elle préfère, le roi de Pologne, et non pas le dernier. Charles IX meurt le 30 mai 1574. Henri alors est invité à s'adresser à tous les gouverneurs et alors faire une déclaration dans laquelle il reconnaît avoir été témoin de ce qu'a écrit Charles IX. Henri n'a qu'une idée en tête, lui, il veut se sauver de la cour et regagner ses états. Alors il fait plusieurs tentatives qui échouent à chaque fois la reine mère en avant, et évidemment elle le fait arrêter. Le roi de Pologne, donc Henri III, a été prévenu que son frère est mort et qu'il devient alors le roi Henri III. Ça fait 6 mois qu'il règne. Bon, on ne peut pas dire que ça a bien marché, parce qu'il ne se fait pas à ce pays, il ne se fait pas aux mœurs, et pas plus qu'aux habitants d'ailleurs, si bien qu'il s'enfuit. Mais on s'aperçoit de sa fuite, il est poursuivi par ses sujets. Il réussit quand même à leur échapper, il faut croire que ses chevaux étaient meilleurs. Il rentre en France, il est sacré à Reims et épouse Louise de Lorraine-Vaudémont. Tout à l'heure, je vous disais qu'Henri de Navarre veut quitter la cour. Eh bien, il y réussit lors d'une chasse où il passe par Châteauneuf-en-Thymerais et Senonches. Henri III est mis au courant et il aime bien Henri III, si bien qu'il ne fait rien pour l'arrêter. Et voilà que sous l'influence de sa sœur, il se reconvertit au calvinisme. Alors ça fait déjà catholicisme à la naissance, calvinisme, recatholicisme, recalvinisme. Et ça se passe à Niort. Donc Harry arrive dans le sud-ouest après des années d'absence. Et l'économie s'est dégradée, l'insécurité règne partout, il faut tout réorganiser. Par les ordonnances d'Agen du 1er avril 1577, il pacifie ses états et relance l'économie. Il chevauche dans ses états et rencontre la population paysanne, ce qui lui permet d'avoir une véritable connaissance des problèmes et ce qu'il faut faire pour les résoudre. Le roi, Henri III, décide de convoquer les états généraux qui ont lieu à Blois le 6 décembre 1576. Henri de Navarre, lui, il a envoyé ses propres députés qui lisent un texte qui prône la liberté de religion. Alors les catholiques, évidemment, sont mécontents. Nouvelles escarmouches qui se terminent par la paix du roi. Les prêches sont autorisés dans les maisons nobles, dans les villes et les bourgs où ils sont pratiqués au jour de l'édit, exception à Paris et à la cour. 8 places de sûreté sont données pour une durée de 6 ans. Alors Navarre applique l'édit, et le Béarn, lui, y boude. Finalement, Henri est bien plus gouverneur de la Guyenne que vicomte du Béarn. Il pense que sa destinée s'est davantage tournée vers la France. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il nomme sa sœur Catherine, régente du Béarn, en 1577. Et si on veut porter un jugement sur les changements de religion d'Henri, on peut citer ce qu'il dit. Ah, c'est une phrase qui n'est pas vilaine. Il dit « Ceux qui suivent tout droit leur conscience sont de ma religion, et moi je suis de celle de tous ceux qui sont braves et bons. » Ça prédit déjà l'édit de Nantes. En Guyenne, les catholiques sont très hostiles à Henri de Navarre, surtout la ville de Bordeaux, qui lui a fait savoir qu'elle ne le laisserait pas entrer dans ses murs. Et on cherche même à le tuer. C'est ce qui se passe à Auze en Armagnac. Il se retrouve isolé avec 4 gentilshommes. Les plus hardis s'avancent, braquant une arquebuse sur Henri. Et lui, en un éclair, il sort ses pistolets et tient les mutins en respect. Alors, Batz, lui, fonce vers l'autre porte, la fait ouvrir pour laisser entrer, évidemment, le reste de la troupe d'Henri, et Henri est sauvé. La reine-mère, elle voit d'un mauvais œil l'indépendance du Béarnais. Elle voudrait bien le reprendre en main. Catherine, c'est la femme, hein, la femme de Henri, elle est restée à la cour. Et elle veut rejoindre son mari. Son frère Henri III en est tout à fait soulagé, parce qu'elle complote elle aussi avec son plus jeune frère. Le 2 août 1578, Catherine et Marguerite partent escortées de 300 personnes. Le 18 septembre, elles entrent à Bordeaux. Quand je dis Catherine, c'est Catherine de Médicis. Hein. Elles entrent à Bordeaux. Et les époux vont se retrouver à Casteras. Nous allons faire une deuxième pause musicale. Vous êtes toujours sur Radio Grand Ciel et je vous raconte la vie d'Henri de Navarre. Donc voilà la reine-mère et puis sa femme qui sont à Bordeaux et puis qui se retrouvent avec Henri à Casteras. Après bien des discussions entre Henri et la reine-mère pour appliquer la paix du roi, eh bien Catherine, la reine-mère, elle décide de repartir vers le nord. C'est ce qu'elle fait et Henri alors se retrouve seul avec sa femme. Il la conduit dans le Béarn et ils font leur entrée solennelle à Pau. Mais Catherine ne se sent pas aimée du tout des Palois. Pour eux, elle n'est qu'un émissaire de sa mère et une intrigante papiste, alors ce qu'ils appelaient les papistes, c'était les catholiques, hein, venue défaire l'œuvre de Jeanne d'Albret. C'est une catholique fervente, elle lit Saint-Augustin et Saint-Bernard. Alors ils quittent Pau le 13 juin et Margot jure qu'elle ne mettra plus les pieds dans ce qu'elle appelle cette petite Genève. On séjourne à Nérac. Eh bien, on peut dire que c'est le seul épisode heureux de la vie conjugale d'Henri et de Margot. Le château est très agréable, il est situé dans une très belle région. Marguerite écrit elle-même « Notre cour était si belle et si plaisante que nous n'en venions point celle de France. » Chacun pratique sa religion sans problème. Lui, il va au prêche, elle va à la messe. Et qui fréquente cette cour ? Quelqu'un que vous connaissez sans doute, Michel de Montaigne. Il y rédige un long chapitre des essais. Et voilà que les hostilités reprennent entre catholiques et protestants. Ces derniers ont conquis des villes. Henri III, alors, envoie le colonel général de l'infanterie royale dire à Henri de Navarre qu'il est temps pour les Huguenots de rendre les places fortes qu'ils avaient eues pour 6 mois et que le délai est dépassé. Henri répond que s'il n'y avait que lui, il n'y aurait pas de problème, mais son entourage ne lui laisse pas le libre arbitre d'obéir. Le 10 avril, dans une lettre, il annonce à sa femme qu'il entre en guerre pour défendre son honneur. Il dit que l'égalité des religions n'est pas respectée dans la vie civile. Qui plus est, Le catholique Biron, encore lui, sur ordre de Catherine, met un peu trop le nez dans les domaines d'Henri. Les Huguenots, Henri à leur tête, prennent alors la ville de Cahors. Biron se précipite avec une puissante armée royale. Il se présente devant le château de Nérac où se trouve Marguerite. Il y a quelques coups de canon, il est maître de la situation. La reine-mère alors intervient pour qu'une paix soit signée. C'est le traité de Flex, le 26 novembre 1580. On renvoie Biron et on le remplace par le maréchal de Matignon. Et, évidemment, les protestants rendent Cahors. Henri se trouve plébiscité, comme le seul protecteur, appuyé par une assemblée de Huguenots, seul protecteur des Huguenots de France. Et son statut est reconnu finalement par le roi de France. Henri III l'aimait beaucoup. Devenu plus puissant, Henri est pour certains une gêne, ce qui explique les différents attentats qu'il va subir. Et puis le ménage se dégrade, chacun trompant l'autre, j'ajouterai beaucoup. Catherine, donc, elle invite sa fille à séjourner à la cour et elle lui envoie même 15 000 écus pour le voyage. Elle demande à Henri d'accompagner sa femme. Oui, mais Henri, il veut pas retourner à la cour. Alors, il veut bien, il va jusqu'à Poitiers. Et à Poitiers, la reine-mère viendra chercher donc Margot. C'est ce qu'elle fait. Donc lui, Henri, il rentre à Nérac le 26 avril. C'est un homme libre qui arrive à Pau le 5 mai 1582. Plus de femme, plus de belle-mère. Il y retrouve sa sœur qui n'est toujours pas mariée. Et la meilleure amie de cette dernière, Diane d'Andoinze, veuve et mère de deux enfants. Son titre, c'est comtesse de Guiche. Elle a troqué son prénom contre celui de Corisande. Elle mène grand train en son château d'Agetmaux. Elle est cultivée, musicienne, elle aime la conversation, la danse. Eh bien, bien sûr, Henri tombe amoureux. Elle aussi. Mais elle se voit plutôt comme l'égérie, la conseillère d'Henri. Il accomplira de grandes choses grâce à elle, dit-elle. L'entrée en scène de la comtesse coïncide avec l'avènement politique de Philippe du Plessis Mornay, un protestant, un théologien profond, un négociateur habile, un polémiste génial qui va ne plus quitter Henri de Navarre. Il y organise d'ailleurs sa maison. Dans le conseil du roi de Navarre, il y a quand même de grands personnages. On a le vicomte de Rohan, le comte de La Rochefoucauld, tous ces gens-là, protestants. Hein, tous ceux qui entourent Henri sont des gens expérimentés et travailleurs, si bien que ces états sont remis sur pied rapidement. Alors rappelons quand même que pour l'instant, le roi est monsieur. Monsieur, c'est le dernier, hein, ce qui est lui, le duc d'Alençon. Eh bien, ils n'ont pas d'enfants. Alors Mornay organise la vie d'Henri, toujours en agitation, pour qu'il ait l'air quand même d'un prince, qui sait, peut-être un jour qu'il deviendra roi de France. Les escarmouches se multiplient entre Henri de Navarre et Henri III. Ce dernier, d'ailleurs, vient de traverser une crise de mysticisme. Il multiplie les pèlerinages et les processions pour avoir un héritier. Et son frère, lui, il continue à comploter. Henri III est persuadé d'ailleurs que sa sœur, Margot, s'y associe. Alors, il ordonne à celle-ci de retourner auprès de son mari. Bon, alors elle prend le chemin de la Gascogne. Henri, lui, il n'est pas du tout pressé de la revoir. Il la rejoint au passage de la Garonne le 13 avril 1584. Monsieur le frère du roi, lui qui guerroie aux Pays-Bas, se retire à Château-Thierry, fatigué. Et oui, parce que lui aussi est tuberculeux. Il n'y a que Henri III qui y échappe. Hein. Et la tuberculose gagne, si bien que le dernier frère s'éteint le 11 juin 1584. Il a 34 ans. C'était l'héritier du royaume. Donc le titre passe à son lointain cousin, Henri de Navarre. Je vous rappelle que c'est parce qu'il descendait du dernier fils de Saint-Louis. Donc, Henri de Navarre écrit une lettre de condoléances à Henri III, mais il ne fait aucune allusion au fait qu'il devient son héritier. Henri III, lui, n'a qu'une idée, il faut absolument qu'Henri de Navarre se reconvertisse au catholicisme. En attendant, une ligue s'est formée contre le Béarnais. À sa tête, le duc de Guise. Et la ligue travaille si bien que le roi de Navarre est déchu de ses droits de succession, que la religion réformée est interdite et que ses adhérents sont contraints à l'exil en laissant leurs biens à leurs héritiers catholiques. Henri III a signé tout ça. Une délégation est envoyée à Henri de Navarre avec une dernière semonce pour se convertir. La Ligue, dont le roi fait partie, bien sûr, obtient que le pape Sixte Quint contresigne toutes ses décisions. Et cependant, on peut dire quand même que les deux beaux-frères continuent de s'écrire. Henri de Navarre fait donc une déclaration à Henri III où il proteste de sa fidélité et lui souhaite longue et heureuse vie. Mais il se dit, puisque on nous attaque, j'arme. Donc le Béarnais arme, alors bien sûr la Ligue aussi, la France est coupée en deux. L'armée des Huguenots est bien maigre, elle échoue devant Angers. Condé alors s'embarque pour Guernesey le 1er novembre. La Ligue gagne du terrain, même en Béarn. Alors Henri s'y rend, le château de Pau est même mis en défense. Les armées royales ont fait leur jonction à Bordeaux, mais La Rochelle protestante résiste. Alors Biron signe une trêve. À Paris, les habitants sont mécontents. L'effort de guerre financier qu'ils ont fourni, ça veut dire qu'ils ont payé, n'a pas donné de fruits. Henri de Navarre, lui, il cherche des sorties. Il se dit, qu'est-ce que je ferais bien ? Il va demander des alliés. Alors, les alliés, il en trouve. Ce sont les princes allemands qui, eux aussi, sont protestants. Catherine de Médicis, alors, elle commence à craindre les ligueurs parce qu'ils sont tellement d'ardeur qu'ils veulent prendre la place, surtout le duc de Guise, la place de Henri III. Et puis, il voudrait bien avoir un grand commandement. Alors de Chenonceau, elle a récupéré Chenonceau, la reine, lorsque Henri II est mort. Henri II, il l'avait donné à Diane de Poitiers, sa maîtresse. Elle l'avait récupéré. Donc elle habite Chenonceau, la reine-mère. Elle fait quelques avances à Henri de Navarre. Lui, Henri de Navarre, il sait bien que le trésor royal est épuisé, qu'Henri III est dans l'incapacité de mener seul la guerre, que le pays tout entier souffre de la famine. Il y a eu un été absolument catastrophique. Alors, Catherine se met en route, elle veut absolument rencontrer Henri de Navarre. Il accepte de la rencontrer le 13 décembre au château de Saint-Brice, entre Cognac et Jarnac. Bon, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et comme ils sont aussi têtus l'un que l'autre, finalement il ne se passe rien entre les deux. Les Huguenots sont impatients, eux, de reprendre les armes, ils tentent même de s'emparer de la reine-mère. Henri prend Talmont, Chazé-sur-Boutonne, Sanzay, Saint-Mexan, Fontenay. Du coup, la reine, elle a peur, elle revient à Paris le 26 mars 1587. Et l'atmosphère est lourde. Son fils n'est pas aimé. Les curés même se déchaînent. On se rend compte que finalement Henri III est impuissant à vaincre les Huguenots, soit par les armes, soit par la diplomatie. Pour les Parisiens, ou c'est un incapable, ou c'est un traître. Alors des complots se forment qui visent à s'emparer du roi et à lui imposer un conseil. La guerre entre Huguenots et Henri et les catholiques avec les Guises et l'armée royale se poursuit. À Coutras, c'est la victoire d'Henri de Navarre. L'armée royale est en déroute, elle laisse même 2000 morts. Lui, Henri, avec 500 cavaliers, il part vers le Béarn. Il arrive à Navarinx le 9 novembre. Il y retrouve sa sœur. Henri, il a amené avec lui son cousin, Charles de Soissons, et il veut le marier à Catherine. Heureusement que ça ne se fera pas, parce que Charles de Soissons, c'était pas vraiment une affaire. Voilà qu'on annonce soudain la mort du prince de Condé. Alors aujourd'hui, on ne sait toujours pas s'il est mort de sa blessure qu'il a reçue à Coutras, d'une péritonite, ou on accuse même sa femme de l'avoir empoisonné, à l'instigation bien sûr de la cour. Sa femme, c'est Charlotte de la Trémouille. Du coup, on la met en prison et elle y accouche d'un fils le 1er septembre 1588. Et les témoins, eux, affirment qu'il ressemble de façon frappante à son père. C'est lui qui sera le père de celui qu'on va appeler le Grand Condé sous Louis XIV. Les devins et les astrologues de l'époque ont annoncé que l'année 1588 serait une année catastrophique. Henri III, lui, il commence à mal supporter la tutelle des Guises qui veulent vraiment prendre sa place. Il se voit bien au pouvoir, Henri de Guise. Il complote alors avec le roi d'Espagne Philippe II. Philippe II, il s'apprête à envoyer en Angleterre une invincible armada. Cette armada est destinée à se battre contre la reine Élisabeth Ière, qui est protestante. Donc, les Guises, eux, ont prévu de s'emparer du duc d'Épernon, qui est un mignon du roi. Ce qu'on appelait les mignons, c'était ceux qui étaient dans le voisinage de Henri III et qui se déguisaient beaucoup avec des bijoux. Et donc, il veut le tuer le 24 avril 1588. Et le complot est découvert, ainsi que celui de la sœur des Guises, la duchesse de Montpensier. Henri III fait alors renforcer le Louvre et il loge des régiments suifs dans les faubourgs. Il envoie un émissaire qui s'appelait Bellièvre à Soissons pour dire à Henri de Guise de pas venir à Paris. Et puis la reine-mère, elle lui donne une commission aussi à l'envoyer. Mais alors une commission d'un avis tout à fait contraire. Elle veut que Guise, Henri de Guise, vienne à Paris. Eh bien Henri de Guise, il obéit à Catherine et il arrive à Paris le 9 mai. En voyant Guise entrer au Louvre, Henri III se met en colère. Le duc a désobéi. Alors la reine-mère, quand elle voit la colère de son fils, elle intervient et finalement Guise sort indemne du Louvre et la foule parisienne l'acclame. Nous allons faire une autre pause musicale. Nous sommes sur Radio Grand Ciel et je vous raconte la vie d'Henri de Navarre. Donc pour l'instant, Henri III fait entrer dans Paris les troupes suisses et les gardes françaises. Et quand la population voit ça, elle est tout à fait indisposée. Alors, que fait la population? Les Français sont prompts à ça. Elles dressent des barricades. Et la foule attaque. Pour ramener le calme, Henri demande l'aide des Guises. Alors les Guises disent oui, on veut bien, à condition que... Donner un pouvoir politique pour lui et pour ses amis, faire une guerre à outrance contre Henri de Navarre et les Huguenots. Le lendemain, les ligueurs s'apprêtent alors à bloquer le Louvre. Henri III, quand il voit ça, il prend la fuite avec quelques fidèles. Saint-Cloud, Rambouillet, Chartres. Navarre apprend la nouvelle. Alors il pense que le roi est bien isolé et puis qu'un jour ou l'autre, il faudra bien faire appel à lui et au parti huguenot pour le soutenir. De Chartres, le roi annonce la convocation prochaine d'états généraux pour discuter des réformes intérieures que réclament les ligueurs et prendre des mesures nécessaires à la défense des catholiques. Les Guises exigent du roi deux armées nouvelles, dont Henri de Guise, bien sûr, prend la tête. À Rouen, le 5 juillet, il a quitté Chartres, à Rouen, le 5 juillet, Henri III, donc, dit « oui, je suis d'accord ». Le 21, donc c'est l'édit d'union, toute association sauf la Ligue est interdite, Tout serment d'obéissance à un hérétique est interdit aussi. Seule la Sainte Ligue permettra au roi de défendre la foi. L'armada espagnole, donc, elle a pris la mer. Et ils se disent, une fois l'Angleterre à genoux, ça c'est les Guises qui se disent ça, hein, les Huguenots de France, alors, n'auront plus qu'à se convertir ou à disparaître. 1er août, Guise est nommé lieutenant général des armées du roi. Le 17, le roi le reconnaît officiellement, écoutez bien, premier prince du sang, sans toutefois le désigner pour l'instant comme héritier du trône. Les états généraux sont convoqués au château de Blois, Henri III y arrive le 1er septembre, alors, et là, arrive une nouvelle effarante, l'invincible armada n'a pas pu débarquer en Angleterre. Elle est presque complètement détruite. C'est un véritable désastre. Alors les Guises, ça, ils ne sont pas contents du tout. Donc, les débris de cette armada sont repartis pour l'Espagne. Alors du coup, quand même, Henri III relève la tête. Sans avertir sa mère, le 8 septembre, il renvoie tout le personnel gouvernemental qu'il juge trop à la solde de Catherine et aux Guises. Le roi veut gouverner par lui-même avec l'aide d'hommes neufs et dévoués. Donc c'est dans une atmosphère de surprise et d'inquiétude que s'ouvre l'Assemblée des États généraux. Le discours du roi surprend par sa fermeté. Les abus seront réformés. Le trafic honteux des charges de jury en justice sera poursuivi avec rigueur. Des ressources nouvelles devront être trouvées pour poursuivre la lutte contre les hérétiques. Le 5 novembre, les États déclarent Henri de Navarre déchu de ses droits et incapable de succéder. Et soudain, une nouvelle incroyable parvient en Béarn. Poussé à bout, Henri III vient de faire assassiner le duc de Guise le 22 décembre à Blois, puis son frère, le cardinal, le 23. Ce sont ses fidèles gardes du corps, ceux qu'on appelait les 45, qui se sont chargés de la chose. Henri III s'est alors écrié « Enfin, je suis roi !» Catherine, elle, accuse le coup. Toute la députation des Ligueurs à Paris est mise sous les verrous. Le roi tient sous bonne garde le jeune fils du Balafré, le petit prince de Joinville, qui évidemment est devenu le nouveau duc de Guise. Chez les Ligueurs, les défections se multiplient. La joie a éclaté dans le camp protestant. Le 5 janvier 1589, c'est la reine-mère qui s'éteint. Les Huguenots reprennent des villes. L'attitude des princes vis-à-vis du Béarnais a bien changé depuis l'assassinat de Blois. On parle de faire se rencontrer le futur roi Henri IV, en fait donc Henri de Navarre, et Henri III. Eh bien, les discussions aboutissent, si bien que Henri de Navarre envoie au roi son meilleur conseiller. Et le traité de Tours est signé pour un an. Le roi de Navarre reçoit Saumur, le culte protestant est toléré, il pourra être célébré publiquement dans les villes de passage de l'armée huguenote, dans la résidence de Henri et dans les villes retenues par bailliage. Chose importante, les deux Henri fondent leur armée en une seule pour attaquer les Ligueurs. C'est-à-dire que l'armée royale et l'armée huguenote donc, vont attaquer les Ligueurs, c'est-à-dire les partisans du duc de Guise. Henri de Navarre part donc avec toute l'armée le dimanche 30 avril 1589 pour rejoindre Henri III. L'entrevue est fixée dans le parc de Plessis-les-Tours. Navarre arrive, les deux acteurs sont bouleversés de se revoir. Ils ne se sont pas vus depuis 13 ans. Ils se sont presque continuellement fait la guerre. Par-delà les différences, en fait, leur solidarité est évidente. Il y a une affluence immense qui se presse dans le parc. Les courtisans, puis le bon peuple de Tours, se frottent les yeux. Navarre a 35 ans. Il a beaucoup vieilli. Le visage s'est allongé. Il porte une petite barbe pointue. Il a un long nez busqué. La moustache est blanche. La barbe grisonne. Les cheveux châtain roux. La peau tannée et ridée. Mais le regard est vif, piquant, narquois, prompt à voir, à saisir et à juger. Son corps a maigri. Il est vêtu d'un pourpoint usé par les frottements de la cuirasse, d'un haut de chausse de velours feuilles mortes, par-dessus une écharpe de taffetas blanc, un manteau écarlate, à la main un chapeau gris orné d'un grand panache blanc attaché par une belle médaille. Henri III, lui, a 37 ans. Son visage s'est alourdi par le bas, les joues et le menton. Le front et les tempes se sont dégarnis. Il porte un très mince collier de barbe. Il a une mouche. Je vous rappelle que la mouche, c'était un petit morceau de tissu noir qu'on se collait sur le visage, sous la lèvre inférieure, et une très fine moustache. Il a un regard vif, mais plutôt hautain. Alors, ce qui est curieux pour Henri de Navarre, c'est qu'Henri III porte des perles en forme de poire aux oreilles. Sur les cheveux, un chapeau noir à bord court, ourlé, orné en son centre d'une croix de diamant et d'une petite aigrette. Il porte un pourpoint de satin sombre qui laisse dépasser le collet de la chemise, une cape qui descend à mi-jambe, le collier du Saint-Esprit autour du cou. Alors Navarre se jette à genoux, Henri III le relève et l'embrasse. Tous deux multiplient les manifestations de tendresse. La foule trépigne. Il rentre au château pour un entretien qui dure 2 heures. Le lendemain 1er mai, Navarre est dans la chambre de son beau-frère dès 6 heures du matin. Afin qu'Henri III puisse entrer dans Paris, Henri de Navarre se présente alors avec 2 armées devant la ville. Le 30 juillet, le pont de Saint-Cloud et le bourg sont emportés et Henri III fixe sa résidence dans le château de l'évêque de Paris, Pierre de Gondy, qui surplombe la Seine. Navarre enlève Meudon et tous les villages jusqu'à Vaugirard. Les Parisiens sont décidés à se défendre. Ils savent bien qu'il n'y aura pas de quartier à attendre de Henri III parce qu'ils ont humilié le roi et qu'ils l'ont chassé. Le roi de Navarre donne les derniers ordres. Et alors, un messager survient qui est venu à bride abattue de Saint-Cloud, un gentilhomme nommé Ventajou. Il glisse quelques mots à l'oreille. Et Navarre, à ce moment-là, s'adresse à son voisin, qui est donc le duc de Rosny, et lui dit « Mon ami, le roi vient d'être blessé d'un coup de couteau dans le ventre. Allons voir, venez avec moi. » Ils partent avec 25 gentilshommes. Nous sommes le 1er août 1589. Un dominicain de 22 ans, Jacques Clément, qui a dit qu'il était porteur d'une lettre et qu'il voulait voir le roi en tête à tête. Et malheureusement, on le laisse entrer. Dès qu'il entre, il frappe le roi au ventre. Le roi appelle à l'aide. Donc, le moine est immédiatement massacré, jeté par la fenêtre dans la cour du château. Le chirurgien qui est arrivé soigne le roi. Le roi entend la messe. Henri de Navarre arrive. Le roi appelle les assistants. De son lit, il leur dit « Je vous prie, comme mes amis, et vous ordonne, comme votre roi, que vous reconnaissiez après ma mort mon frère que voilà, et que pour ma satisfaction et votre propre devoir, vous lui prêtiez le serment en ma présence. » Une fois la fidélité jurée par les assistants, Henri III congédie le Béarnais en le priant d'aller visiter tous les quartiers de l'armée, car l'annonce de l'attentat peut inciter les Parisiens à tenter une sortie. Il est 11h du matin. Henri regagne son camp de Meudon pour rater les préparatifs de l'assaut. Tard dans la soirée, un message de son propre chirurgien qu'il avait laissé auprès du roi l'avertit que l'état du blessé s'est brusquement aggravé. De vives douleurs ont saisi le roi. L'assistance comprend qu'il n'y a plus d'espoir. Vers minuit, Henri III reçoit l'extrême-onction. Il perd la vue, puis l'ouïe, la parole s'embarrasse. À 2h du matin, la mort interrompt son dernier signe de croix. Le dernier des Valois est mort. »